Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Selon un sondage Ipsos publié hier, les deux tiers des Français, 65%, placent l'honnêteté et la probité en tête des qualités nécessaires à un président de la République. Est-ce une nouvelle embêtante pour Marine Le Pen ?
Non, pas du tout. Je crois même que c'est d'ailleurs assez classique. Lors des dernières présidentielles, on avait à peu près le même chiffre. Les Françaises et les Français mettent cette qualité en premier. Malheureusement, on a vu d'ailleurs ce qu'avait donné le quinquennat irréprochable et exemplaire de François Hollande. Donc non, ce n'est pas inquiétant. Marine Le Pen est une femme honnête, est une femme qui défend la probité en politique, malgré les attaques dont elle fait preuve. Et c'est harcèlement politique et judiciaire depuis un certain nombre d'années maintenant, fort injustifié d'ailleurs.
Cette nouvelle affaire sur un possible emploi fictif concernant David Rachline, qui a une enquête a été ouverte. Il a été salarié de la région Nord-Pas-de-Calais alors qu'il était élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est une nouvelle démonstration de cette persécution dont Marine Le Pen dit être victime.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a sept ans, David Rachline a été salarié pendant 3 mois au Conseil régional des Hauts-de-France, dont je suis moi-même d'ailleurs l'élu. Ce n'était pas fictif. Il a été là pendant 3 mois. D'ailleurs, un certain nombre d'images, de captures d'écran.
Tout en étant élu à ce moment-là.
Oui, mais enfin, ça a duré trois mois. Il était élu d'opposition. Hein. Il n'était pas maire de Fréjus à l'époque. Il était conseiller municipal d'opposition. Ouais. Donc évidemment, ça ne lui prenait pas toutes ses journées. Il a été là pendant 3 mois. Et je trouve original qu'on puisse déterrer ce genre de dossier 7 ans après, en pleine période électorale. Si ça, c'est pas une sorte de harcèlement politico-judiciaire peu indépendant, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, personne n'est dupe, et je pense que ça va faire pchit, comme la plupart d'ailleurs des choses qui sont souvent reprochées au Front National, surtout en période électorale d'ailleurs.
La plupart des observateurs de la vie politique s'accordent à dire que le débat entre les 11 candidats qui a eu lieu avant-hier soir a été un moment plutôt difficile, en tout cas pas très facile pour Marine Le Pen. Est-ce qu'on le dit aussi dans son entourage ?
Non, en fait, je crois qu'il y a un effet d'optique qui fait qu'un débat à 11 valorise la parole des candidats qui sont moins connus. Je ne dis pas des petits candidats, parce que je pense qu'en démocratie, il n'y a pas de petits candidats. Ils sont tous respectables, ils sont tous passés par les mêmes processus. Mais typiquement, ce genre de débat valorise leur parole et l'effet buzz, la petite citation, etc. Marine Le Pen a choisi de ne pas justement entrer dans ce jeu des petites citations, des petites altercations, pour pouvoir, au-dessus de la mêlée, tracer le chemin, la voie vers laquelle elle souhaite mener les Françaises et les Français. Et évidemment, ça crée moins de bruit médiatique. M. Poutou avait préparé son petit effet. Il est content, ça a fonctionné une fois. Voilà, rendez-vous au tas de sable, comme on dit.
En même temps, c'est vrai que c'est moins facile pour elle quand elle n'a pas le monopole de la contestation de l'Europe. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'avait pas. Ou de la contestation du système. Sa parole devient moins originale.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'elle est rejointe sur un certain nombre de positions. Aujourd'hui, la question européenne qu'elle-même dénonce, en ce qui concerne sa structuration, la vie de l'Union européenne, les conséquences qu'elle a pour la France, eh bien, cette analyse qu'elle fait depuis longtemps, d'autres la rejoignent. Je vois même que M. Mélenchon, qui pourtant a voté tous les rapports en faveur de l'accueil des migrants, etc., au Parlement européen, dont il est l'élu, assez peu d'ailleurs présent, puisque 12% de taux de présence pour M. Mélenchon au Parlement européen, eh bien, je vois que l'ensemble des autres candidats, à l'exception de M. Macron, qui est européiste, eh bien, viennent sur les positions de Marine Le Pen. Donc, effectivement, son analyse est de plus en plus partagée, mais on est habitué à ça. Quand Marine Le Pen dénonçait les politiques immigrationnistes, quand elle dénonçait l'absence de sécurité dans le pays, l'absence de capacité à détruire les foyers djihadistes, eh bien, elle était d'abord insultée, contestée, et puis finalement, tout le monde se range, quelques temps après, à son analyse. Bah, on voit exactement la même chose sur la question européenne, par exemple.
Vous avez parlé de toute présence de Jean-Luc Mélenchon, 12% au Parlement européen. Celui de Marine Le Pen, vous le connaissez ?
Alors, je ne connais pas, mais il est largement supérieur. Elle y est d'ailleurs aujourd'hui même, au moment où nous nous parlons. Et je rappelle que dans le classement, il y a un classement, un peu comme à l'école, des députés européens français, mais également de l'ensemble des pays, eh bien, ce sont les premiers sont 3 ou 4 députés issus du Front National. Les députés du Front National honorent leur mandat, travaillent et contestent de l'intérieur cette Union européenne qui nous fait tant de mal, il faut bien le dire.
Pour revenir donc au débat, d'après un sondage qui a été réalisé immédiatement après démission. Marine Le Pen n'a été jugée convaincante que par 11% des personnes interrogées. C'est juste un point de mieux que Benoît Hamon à 10%. Mais c'est derrière François Fillon à 15% et très loin derrière Jean-Luc Mélenchon à 25% et Emmanuel Macron à 21%. C'est une déception, ça, tout de même?
Non, parce que vous savez, les sondages vont et viennent. Moi, je me suis donné, j'en fais l'exception en vous répondant, mais comme ligne de conduite, en général, de ne pas commenter les sondages, ni lorsqu'ils sont sympathiques, et il y en a.
C'est une ligne de conduite qui se généralise.
Non, mais parce que la réalité, c'est que le seul sondage qui vaille, c'est celui du dimanche des élections, qui, a fortiori, n'est plus un sondage, mais surtout, on voit bien qu'une campagne électorale est faite de haut, de bas, de plat, etc. Et puis, les sondages sont là pour mesurer ça à l'instant T, et pas les dynamiques. Moi, ce que je vois, pour avoir accompagné Marine Le Pen dans un certain nombre de déplacements, c'est l'accueil absolument incroyable de Marine Le Pen partout sur le territoire français. Mais incroyable.
Alors, puisque vous parlez de dynamique, justement, et pour rester quand même un instant sur les sondages, depuis des mois maintenant, Marine Le Pen est donnée en tête ou désormais parfois deuxième à touche-touche avec Emmanuel Macron, 24, 25, 25, 26. Mais justement, on ne sent pas la dynamique. Jamais elle ne passe au-dessus de ce seuil et on voit bien qu'au deuxième tour, dans tous les cas de figure, elle serait battue. Comment vous allez faire? Comment va-t-elle faire pour trouver le truc?
Alors, deux choses. À partir du moment où on fait la course en tête depuis le début...
C'est une position difficile.
Présidentielle, c'est une position difficile, mais enfin, je crois que notre position donnerait beaucoup... serait enviée par beaucoup d'autres candidats. Je crois que M. Fillon serait ravi d'être dans notre position. Et puis, il y a encore, je crois, 40% des Français qui ne savent pas pour qui voter. C'est vers eux que notre message s'adresse. François Fillon ne pourra plus changer les choses. Il ne pourra pas appliquer un programme différent. Il n'en a pas la capacité. Et Emmanuel Macron ne souhaite pas changer les choses. Donc, les Françaises et les Français ont le choix entre cet ordre des choses incarné par Macron et Fillon, finalement, c'est-à-dire continuer de la même façon, ou bien changer le modèle politique, économique, diplomatique, etc. C'est ce que propose Marine Le Pen. Et les Français auront en main les cartes de façon très, très claire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est de dire qu'il y a une possibilité aujourd'hui, parce qu'il y a un enjeu qui est... quasi identitaire. Est-ce qu'on veut encore la France ou est-ce que finalement on considère que la France sera un élément de l'Union européenne? C'est ce que propose Emmanuel Macron. Nous, on croit qu'on veut encore de la France.
Vous avez été, Sébastien Chenu, j'ignore si vous êtes encore, mais vous avez été un militant de la cause homosexuelle, notamment à travers l'association Gaylib que vous aviez fondée. Comment jugez-vous le bilan du quinquennat de François Hollande dans ce domaine?
Bon, écoutez, si vous voulez me parler du mariage gay, que moi j'avais soutenu à l'époque, évidemment, on peut considérer qu'à partir du moment où on donne des droits à des couples qui partagent une vie commune, des droits en matière pratique, eh bien c'est plutôt un bon point. Mais simplement, je crois que François Hollande, là encore, a mal géré ce dossier. Il a divisé les Françaises et les Français là-dessus. Alors que finalement, union civile, c'est ce que nous avions proposé d'ailleurs à l'époque, une union civile cohérente qui permettrait de donner ses droits, c'est pas rien de vivre ensemble pendant 20 ans, eh bien était bien plus simple que de brutaliser la société française comme il l'a fait et de heurter, je crois, beaucoup de nos compatriotes.
Merci Sébastien Chenu.
Bonne journée.